56. L'apostat de l'esprit libre. Qui donc aurait une aversion contre les hommes pieux et fermes dans leur foi? Ne les regardons-nous pas, au contraire, avec une vénération silencieuse, en nous réjouissant de leur aspect, avec le regret profond que ces hommes excellents n'aient pas les mêmes sentiments que nous? Mais d'où vient cette aversion soudaine et sans raison contre celui qui a possédé toute la liberté d'esprit et qui est devenu croyant? Lorsque nous y songeons, nous avons l'impression d'avoir vu un spectacle dégoûtant qu'il nous faudrait vite effacer de notre âme. Ne tournerions-nous pas le dos à l'homme le plus vénéré si nous avions à ce sujet quelques soupçons à son égard? Et ce ne serait pas puisque nous le condamnerions au point de vue moral, mais à cause du dégoût et de l'effroi qui nous prendrait soudain. D'où vient cette sévérité de sentiment? Peut-être l'un ou l'autre voudrait-il nous faire entendre qu'au fond, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de nous-mêmes. Que nous plantons autour de nous, au bon moment, les buissons du mépris le plus épineux, pour qu'au moment décisif où l'âge nous rend faible et oublieux, nous ne puissions plus enjamber notre mépris. Franchement, cette supposition porte à faux, et celui qui l'a fait ne sait rien de ce qui agite et détermine l'esprit libre. Combien peu, pour l'esprit libre, le changement d'une opinion paraît-il méprisable en soi? Combien il vénère, au contraire, la faculté de changer son opinion? Une qualité rare et supérieure, surtout lorsqu'on la garde jusqu'à un âge avancé. Et son orgueil, et non pas sa pusillanimité, va jusqu'à cueillir les fruits défendus du spernere se sperni et du spernere se ipsum, loin de s'arrêter à la crainte des vaniteux et des nonchalants. De plus, la doctrine de l'innocence de toutes les opinions lui paraît aussi certaine que la doctrine de l'innocence de toutes les actions. Comment pourrait-il se faire le juge et le bourreau des apostats de la liberté intellectuelle? L'aspect d'un tel apostat le touche par contre de la même façon dont l'aspect d'une maladie répugnante touche un médecin. Le dégoût physique devant ce qui est spongieux, amolli, envahissant, purulent, surmonte un instant la raison et la volonté d'aider. Ainsi, notre bonne volonté est terrassée par l'idée de la monstrueuse déloyauté qui a dû dominer chez l'apostat de l'esprit libre, par l'idée d'une dégénérescence générale rogeant jusqu'à l'ossature du caractère. 57. Autre crainte, autre certitude. Le christianisme avait fait planer sur la vie une menace illimitée et toute nouvelle, et créé de même des certitudes, des jouissances, des récréations toutes nouvelles et de nouvelles évaluations des choses. Notre siècle nie l'existence de cette menace, et en bonne conscience, et pourtant, il traîne encore après lui les vieilles habitudes de la certitude chrétienne, de la jouissance, de la recréation, de l'évaluation chrétienne. Et jusque dans ses arts et ses philosophies les plus nobles, comme tout cela doit paraître faible et usé, boiteux et gauche, arbitrairement fanatique et, avant tout, combien incertain tout cela doit paraître, maintenant que le terrible contraste de tout cela s'est perdu. L'omniprésente crainte du chrétien pour son salut éternel. 58. Le christianisme et les passions. On devine dans le christianisme une grande protestation populaire contre la philosophie. La raison des sages anciens avait déconseillé à l'homme les passions. Le christianisme veut rendre les passions aux hommes. À cette fin, il dénie toute valeur morale à la vertu, telle que l'entendaient les philosophes, comme une victoire de la raison sur la passion, condamne d'une façon générale toute espèce de bon sens, et invite les passions à se manifester avec la plus grande mesure de force et de splendeur. Comme amour de Dieu, crainte de Dieu, foi fanatique en Dieu, espoir aveugle en Dieu. 59. L'erreur comme cordiale. On dira ce que l'on voudra, mais il est certain que le christianisme a voulu délivrer l'homme du poids des engagements moraux en croyant montrer le chemin le plus court vers la perfection. Tout comme quelques philosophes croyaient pouvoir se soustraire à la dialectique pénible et longue et à la récolte de faits sévèrement contrôlés pour renvoyer à un chemin royal qui mène à la vérité. C'était une erreur dans les deux cas, mais pourtant un grand cordial pour les désespérés mourant de fatigue dans le désert.